Merci, Monsieur le Président. Merci, Hans, pour ces paroles bien trop laudatives.
Non.
J'essaie de venir maintenant à l'essentiel, et on verra bien, à savoir le dommage Kirka Ipsam Rem, quelques réflexions sur un régime strict de limitation du dommage, comme je l'ai appelé. Aujourd'hui, et hier et demain, nous allons parler essentiellement de la responsabilité, puisque c'est le thème de notre congrès. Mais pour les parties impliquées dans les procédures, bien souvent, ce qui compte, c'est de savoir combien elles vont payer à la fin et finalement l'ampleur du dommage. Et je me suis intéressé aujourd'hui, mais ce n'est pas la première fois, il y a eu différentes publications dans lesquelles j'ai traité cette question, je me suis intéressé à la question de savoir dans quelle mesure les critères de responsabilité peuvent avoir un impact sur l'ampleur du dommage et donc l'ampleur surtout de la réparation. Puisque lorsqu'il s'agit de déterminer le montant de l'indemnité, eh bien, on va généralement le faire en deux temps. Dans un premier temps, on fixera les contours du dommage à réparer. J'y reviendrai, puisque c'est l'objet de la communication. Puis, dans un deuxième temps, on examine, notamment en lien avec la lex aquilia, mais aussi en matière contractuelle parfois, on examine dans quelle mesure l'indemnité peut être réduite, par exemple en cas de faute concomitante parce que la victime a assumé une partie du risque. On en a aussi entendu parler à travers la garantie. On verra, il y a des points de convergence avec la présentation de notre collègue Céline Dran. Je vais donc commencer par un premier texte qui nous pose l'hypothèse de base, la question du modum circa ipsam rem. C'est un texte du juriste Paul du 3e siècle après Jésus-Christ. Voilà donc le texte, je vais le lire peut-être en français, mais vous avez le texte latin sous les yeux. Si la chose n'est pas transférée à cause du vendeur, per venditorem steterit, on estime l'entier de l'intérêt de l'acheteur, omnis utilitas emptoris, pour autant qu'il se limite à la chose elle-même. Et ça, c'est important, modo circa ipsam rem constitit. On ne doit en effet pas prendre en compte dans l'estimation le fait que l'acheteur aurait pu, avec le vin par exemple, faire du commerce et du bénéfice. De même, s'il a acheté du blé, le fait que ses esclaves sont morts de faim parce qu'il n'a pas été remis le blé. L'obligation ne devient pas plus importante si on agit plus tardivement, quoiqu'elle augmente si le vin vaut plus aujourd'hui. J'y reviendrai. À juste titre, puisque soit s'il a été remis, je l'aurai en tant qu'acheteur, soit s'il ne l'a pas été, puisqu'on doit remettre aujourd'hui ce qu'il fallait déjà remettre autrefois. En matière ici de contrat de vente, d'emptio venditio, puisque c'est l'objet même du commentaire au livre 33 à l'édit, comme le relève la Palingénésie, Paul se pose la question de savoir comment évaluer le dommage réparable qui doit correspondre à l'id quod interest, lorsque en l'occurrence, le contrat n'est pas du tout exécuté. Paul distingue entre le dommage modo circa ipsam rem, qui est limité seulement à la chose elle-même, et d'autres dommages. Alors ce dommage modo circa ipsam rem, ou circa ipsam rem, est un dommage qui est délimité à la chose elle-même. Bon, on comprend tout de suite ce que ça signifie, et en même temps, on sent un malaise du juriste. On se dit, bon, d'un côté, la chose doit servir de référence à l'évaluation du dommage, mais dans le même temps, nous dit Paul, on doit tenir compte de l'évaluation, de la fluctuation du prix dans cette évaluation du dommage. Mais tout le bénéfice que l'on pourrait faire avec cette chose, en cas de revente, le lucrum, n'entre pas dans l'évaluation de ce dommage. Et on sent une certaine tension, une certaine question que se pose Paul, qui est de dire, mais finalement, si la variation du prix dépend, pour prendre un terme moderne, du marché, de l'évolution du marché, comment bien distinguer cette valeur qui augmente du bénéfice que je peux faire, qui intrinsèquement est lié à la variation de la valeur. Alors, c'est vrai que la délimitation à la chose elle-même, c'est une chose connue, c'est un élément connu par les juristes, puisqu'on la retrouve aussi dans la Lex Aquilia. C'est la raison pour laquelle le chapitre premier dit, ben voilà, on doit prendre en compte la plus forte valeur dans l'année qui précède la mort de l'esclave ou des quadrupèdes, puisque en fonction du moment, eh bien, on a des fluctuations du marché. Mais ici, on voit bien qu'il y a aussi une fonction commerciale qui entre en ligne de compte. Il semble que Paul opte ici pour une approche, j'allais dire, plutôt restrictive de la réparation du dommage, puisqu'il dit que c'est limité à la chose elle-même. On va exclure le gain manqué, le lucrum quaesens, ou aussi le dommage consécutif à l'absence de livraison de la chose. Donc, pour répéter ce qu'il nous dit, l'obligation ne devient pas plus importante si on agit plus tardivement, quoiqu'elle augmente si le vin vaut plus aujourd'hui. Là, c'est limité à la variation de la valeur de la chose. En revanche, nous dit encore Paul, on ne doit pas prendre en compte dans l'estimation le fait que l'acheteur aurait pu vendre le vin avec du bénéfice, alors même que cela pourrait, du moins intellectuellement, entrer dans cette notion de lead quod interest. Donc, la limite du dommage paraît relativement claire. Et pourtant, lorsqu'on lit l'expression utilisée dans la traduction en anglais du Digest par Alan Watson, on peut lire ceci. « Every benefit to the buyer is taken into account provided that it stands, et là le point important, in close connection with this matter. » Donc, il traduit le terme « res », non pas par la chose, mais en disant par l'affaire. Ça doit être en proche connexion, pour traduire littéralement, avec l'affaire. Alors, ce n'est pas une traduction qui est totalement saugrenue, puisque à bien des égards, le terme « res » signifie l'affaire, notamment en matière procédurale. On voit cette acception, mais on le voit ici aussi, l'idée du « circa ipsam rem », c'est de dire ce ipsam rem, c'est l'affaire elle-même et l'immédiateté du dommage. On a évidemment ici une transposition d'une réflexion moderne sur le texte romain, comme je vais essayer de vous le montrer, mais c'est relativement évident. Alors, cette interprétation ne me semble pas nécessairement motivée par les textes, et pourtant, lorsqu'on lit le texte numéro 2 dans ma feuille de texte, je vous rassure, on ne va pas faire tous les textes, mais je n'ai pas pu résister d'en mettre encore plus pour votre lecture ultérieure. Dans le texte numéro 2 d'Ulpien, on peut lire la chose suivante. Si la chose vendue n'est pas transférée, on agit alors en exigeant son intérêt, it quod interest, à savoir l'intérêt qu'a l'acheteur d'avoir la chose, j'ai traduit, en sa possession. Cet intérêt excède cependant le prix de la chose, s'il est plus élevé que la valeur de la chose ou le montant pour lequel elle a été achetée. Donc, dans ce passage d'Ulpien, on s'est dit, l'intérêt de l'acheteur peut être plus élevé que le prix de la chose ou que la valeur de la chose, nous dit Ulpien. C'est donc un intérêt subjectif, certes, qui peut découler du fait que j'ai acheté un objet qui devra peut-être s'intégrer dans un ensemble plus large. Un cheval pour un quadrige, par exemple, et la valeur subjective peut être plus importante. Mais il ne faut pas oublier le passage de Paul du premier texte, « Omnis utilitas in estimationem venit ». Toute l'utilité doit venir dans l'estimation, toute l'utilité de la chose. Mais dans l'utilité de la chose, il y a évidemment la possibilité de la revendre. Donc on voit bien qu'il y a une certaine tension dans ce qui paraissait pourtant relativement clair. Alors comment faire pour différencier la valeur subjective de la chose pour l'acheteur, qui doit intégralement venir dans l'estimation, et les autres éléments qui ne viennent pas dans l'estimation, tels que le bénéfice ultérieur, le lucrum quaesens, ou le dommage consécutif à l'absence de livraison, le damnum emergens consécutif, si on veut faire un mélange de langues. Alors, certains auteurs romanistes ont considéré que la limite dépendait du caractère prévisible du dommage consécutif ou du bénéfice ultérieur. Mais on le voit bien ici, rien de tout cela dans les textes, en tout cas, que je vous présente. Et il semble vraiment que, sur la base de ces textes-là, en tout cas, et certains autres, on ne peut pas appliquer un tel critère de distinction qui, lui aussi, a des relents de droit moderne qu'on impose dans la lecture des textes romains. On l'a vu aussi hier dans la conférence de Sylvain Soleil, qui soulignait des considérations similaires dans l'analyse des expertises où on devait, par exemple, évaluer les bœufs, le cas des trois bœufs, où là aussi, la question qui se posait aux experts était de dire, mais est-ce qu'on prend que la valeur des trois bœufs ou est-ce qu'on tient compte du bénéfice que l'on fera lors de la vente de bœufs? Donc le problème s'est poursuivi. Mais la volonté de Paul qui est reprise, me semble-t-il, est claire. La mise en œuvre est difficile et on va voir quelques éléments. Au moment de la non-livraison, l'estimation du dommage est limitée à la valeur de la chose elle-même, bien que celle-ci puisse évoluer vers le haut ou vers le bas. J'en viens dans un deuxième temps à l'extension au lucrum quaesens, ou du moins la question qu'on pourrait se poser en lisant notamment les deux ou trois textes suivants. Parce que d'autres textes paraissent aller au-delà de la réparation de la chose elle-même et permettant notamment la réparation du lucrum quaesens. Par exemple, le texte numéro 3, qui lui aussi est de Paul, Digeste 46, 8, 13, Principium. Si la stipulation ratam rem dominum habitum, le maître ratifiera l'affaire, est exécutoire, on agit pour ce qui est mon intérêt, c'est-à-dire pour ce qui me manque et ce que j'aurais pu faire de profit. Hein? Lucrari potui. Donc là, on envisage la couverture du lucrum quaesens. Mais bien sûr, la situation est un peu différente. On est ici dans l'hypothèse où un procurator, un représentant, agit pour un tiers qui n'est pas présent, et dans la procédure, il va faire une stipulatio pour dire, mais si, l'affaire sera ratifiée après coup par le maître, et par conséquent, on peut aller de l'avant avec cette procédure, avec un procurator. En quelque sorte, et là on fait un lien avec la conférence précédente, on a ici une garantie qui consiste en un engagement plus large, un engagement de dire, ben voilà, tout ce qui découle de cette affaire sera ratifié, et sinon je m'engage à payer la différence. Donc on est dans une situation différente, il me semble qu'ici il s'agit d'une véritable garantie de couverture du dommage en cas de non-ratification, ce qui pourrait justifier le fait que l'on doive réparer le lucrum quaesens. Le quatrième cas, ou le quatrième texte, présente une autre situation, elle, liée à la vente. Et on se dit, ah bon, peut-être que c'est caractéristique à la vente, cette question. Il s'agit d'une chose qui a été prise par violence au vendeur, qui en avait la custodia, la responsabilité pour la garde, on en a aussi parlé déjà dans ce colloque. Et le texte de Neratius, le texte numéro 4, indique que le vendeur n'a rien d'autre à donner que de transférer les actions qu'il a contre le tiers. Donc ici, il y a une cession d'action contre le tiers. Et le texte nous dit, on ne va pas lire tout le texte, ce n'est pas l'objet de mon exégèse, s'il souhaite cette cession d'action, arbitrio tuo, donc l'acheteur, a le choix en disant ben, j'aimerais la remise de ses actions. S'il accepte cette cession d'action, l'acheteur supporte tous les avantages et les frais. Omne lucrum ac dispendium te sequatur. Alors là, évidemment, on a le lien avec le lucrum et le dispendium, et certains auteurs disent ben voilà, il y a couverture du lucrum quaesens en matière de demptio venditio. Mais c'est une situation totalement différente. C'est une situation où on dit simplement, si tu as choisi la cession d'action, alors tu supportes toutes les conséquences. Les conséquences, à savoir les frais que tu auras engagés pour la procédure et le bénéfice que tu peux retirer si tu as gain de cause à l'égard du tiers. On est ici dans une situation particulière. Et cette situation particulière est d'autant plus justifiée qu'à l'origine de cette question, on a la prise par la violence de l'objet, on verra, cette prise par vie, est un peu comme un acte illicite qui est à l'origine, et ça joue, à mon sens, un rôle déterminant. Dernier texte que j'aimerais évoquer en lien avec cette limitation plus large potentielle du lucrum quaesens, c'est le texte 5 d'Hermogène, hermogénien, qui envisage un acheteur en retard pour le paiement d'un prix et qui ne doit que les intérêts et non tout le dommage supplémentaire, dit le texte, hein, non omne omnino quod venditor mora non facta consequit potuit veluti, et puis on donne des exemples, notamment si on a obtenu un prix plus élevé en cas de revente. Hein. Une fois le prix des marchandises payées, obtenir plus que les intérêts, cet élément-là ne doit pas être restitué. En conséquence, et pour ce premier point, il me semble que lorsqu'on a des textes qui paraissent octroyer le lucrum quaesens, le manque à gagner, il s'agit de situations particulières, même si elles peuvent être liées à l'action de la vente, il n'en reste pas moins que le critère de base me semble être effectivement le circa ipsam rem, limité à la chose elle-même et à ses variations. Deuxième temps de la présentation, beaucoup plus court, j'en vois parmi vous qui se disent probablement, oui mais il oublie de parler d'un texte fondamental qui est le suivant évidemment, le digest 19.1.13 principium d'Ulpien. Ce texte a d'ailleurs été ensuite repris par Potier, comme on le verra peut-être si le temps nous en laisse l'occasion. Je prends l'ensemble du texte de nouveau en français. Là aussi, il y a un lien intéressant avec la contribution précédente. Au livre 15 de ses digestes, Julien distingue, pour la condamnation à l'action de la vente, entre le vendeur qui sait et celui qui ignore le défaut. En effet, les lettres ont été introduites par moi-même. Hein. En effet, il dit que celui qui a vendu une pièce de bétail malade ou une poutre défectueuse, s'il l'a fait en ignorant cela, il sera tenu en vertu de l'action de la vente uniquement à payer la différence avec le montant inférieur auquel l'objet aurait été acheté si le défaut avait été connu. Donc une réduction liée au dommage lui-même dans la chose. Hein. En revanche, si le vendeur le savait, qu'il s'est tu et qu'il a ainsi trompé l'acheteur, il répondra de tous les dommages que l'acheteur a subis suite à cette vente. Ainsi donc, lorsqu'un bâtiment est détruit à cause du vice d'une poutre, il doit assumer la valeur de tout l'immeuble, enfin de l'immeuble, de tout l'immeuble. Ou lorsque les bêtes du troupeau meurent par suite de contagion de la maladie d'une bête, on doit réparer l'intérêt à ce que cela ne se soit pas produit, c'est-à-dire la réparation de l'ensemble du troupeau. Peut-être aussi, mais ici, du troupeau. Donc on voit une distinction fondamentale entre connaissance et ignorance du dommage. Bon, il s'agit d'un cas un peu différent, puisqu'ici, la chose est livrée, il y a exécution, contrairement au premier texte, mais cette exécution est traitée différemment selon qu'il y a connaissance ou non du défaut. S'il n'y a pas connaissance du défaut, le dommage reste limité à la chose elle-même. Et on est ici en présence d'une action empty qui donne lieu à une sorte de réduction du prix, même si ce n'est pas l'action spécifique. Alors certains auteurs ont dit, mais ce n'est pas possible, c'est déjà une interpolation. À mon sens, ça ne l'est pas. Non. On voit ici simplement un raisonnement qui va dans le même sens que l'actio quanti minoris, qui elle est plus spécifique. Mais le deuxième point beaucoup plus intéressant pour nous, le point B, et l'exemple C, où en cas de dol, eh bien là, on change le régime de l'évaluation de dommages et on tient compte du dommage consécutif au défaut. Ce dol transforme finalement la nature de la responsabilité. D'une responsabilité contractuelle, elle devient quasiment, j'allais dire, une responsabilité extra-contractuelle, délictuelle. Et ça peut être la justification de cette extension. Et donc ce texte, me semble-t-il, renforce encore l'analyse initiale de Paul en disant si on est en présence d'une responsabilité contractuelle, le dommage est limité à l'objet lui-même, à la chose elle-même avec ses variations. Dès en revanche qu'il y a un aspect dolosif, qu'il y a donc un acte illicite, même si évidemment pour Gary omni dolo, il faut être exempt de tout dol, fait partie des obligations du vendeur, mais ça a une nature délictuelle, eh bien la responsabilité va plus loin, le dommage à réparer est plus large. Alors bon, on aurait pu s'arrêter là, et d'ailleurs je vais devoir m'arrêter là, mais peut-être juste deux points. Le premier, c'est que Justinien, en voulant généraliser les choses, a créé de la confusion. Puisque, comme vous le voyez au texte 7, il limite la réparation au double. Hein, « Hoc quod interest dupli quantitatem minime excedere ». Alors, pourquoi le double? Ça, c'est la première question. Mais surtout, est-ce que ce double, cette limitation, ne s'applique que dans les hypothèses du dommage ipsam circarem ou bien aussi des autres dommages à réparer, comme dans le cas du défaut connu ou inconnu? On ne le sait pas, parce que l'idée, c'était de tout recouvrir, par cette analyse. J'ai expliqué à d'autres endroits, et notamment dans les mélanges en l'honneur de Laurens Winkel, ce que je pensais et l'évolution de cela. Si ça vous intéresse, vous pourrez vous y référer. Toujours est-il qu'on voit qu'au Moyen-Âge apparaît cette notion ou ce doublet entre dommage modum circa ipsam rem et dommage extra rem, qui va au-delà, ce dommage consécutif. Et là, on voit une tension chez les auteurs de se dire, mais est-ce que ça s'applique, cette limite du double, au dommage extra rem ou bien au dommage circa rem? Vous avez un exemple chez Guillaume de Cabrianus dans son Casus Codicis, chez Paul de Castres, qui fait des distinctions. Et juste pour terminer, en guise de conclusion, on arrive toujours en conclusion chez Potier. David de Roussin ne pourra pas me contredire. Chez Potier, Potier va réinterpréter ce texte sur le défaut avec la connaissance et l'absence pour faire cette distinction. Il est embêté, j'allais dire, avec la question du double du prix. C'est le numéro 165 dans le texte 10, page 3, où il dit « Il est évident que la réduction des dommages et intérêts au double du prix de la chose qui a fait l'objet de l'obligation primitive n'a d'application qu'à ceux qui sont dus par rapport à la chose seulement et qu'elle n'en peut recevoir à l'égard de ceux que le créancier a souffert extrinsecus dans ses autres biens lorsque le débiteur s'y est expressément ou tacitement soumis ou bien lorsqu'il y a dol », c'est le point 166. Donc en conclusion, on voit que Potier, outre la réinterprétation sur la prévisibilité que je laisse de côté, trouve un critère qui me paraît correct, qui est de dire, je vais réinterpréter Justinien, le dommage qui est lié à un acte illicite, lui ne doit pas être limité, même pas par le double, alors que l'autre dommage qui est lié à la chose elle-même, mais dont la valeur peut fluctuer en fonction du marché, ça peut se justifier d'avoir une limitation au double. Merci. Parfait.